Vous écoutez, on lit pour vous.
Le soleil tape-t-il plus fort depuis que les navires émettent moins de soufre? Un texte d'Alexis Riopel paru le 15 janvier 2025 dans Le Devoir. Avant de répondre à cette énigmatique question formulée par l'un de nos lecteurs, il faut mettre la table. Les grands navires qui sillonnent les océans influent sur le climat avec leurs émissions de CO2, mais aussi, de manière plus indirecte, avec les aérosols qu'ils relâchent dans l'atmosphère. Les aérosols sont de petites particules qui flottent dans l'air. Cristaux, gouttelettes visqueuses, suie, poussière, sable hyper fin. En suspension dans l'atmosphère, les aérosols deviennent ce que les météorologues appellent des « noyaux de condensation ». L'humidité ambiante s'y agglomère, créant des gouttelettes d'eau. Un nuage apparaît. Les aérosols émis près de la surface, comme ceux des navires, génèrent des nuages de basse altitude qui s'élèvent à moins de 2000 mètres. Ces nuages jouent le rôle d'un miroir. Blancs, ils réfléchissent la lumière du soleil. En outre, une bonne partie de leur énergie thermique irradie vers l'espace. Conséquence, ils ont un effet refroidissant sur le climat. Cependant, bon nombre d'aérosols sont également associés à des méfaits pour la santé. Les particules crachées par les moteurs des navires, des automobiles et des usines provoquent de l'asthme, de la toux, des troubles neurologiques. Dès les années 1970, de nombreux pays ont réduit l'émission de ces polluants, ce qui a sauvé des millions de vies. En contrepartie à ces bénéfices indéniables pour la santé, ce grand nettoyage nous prive de nuages qui refroidissaient un peu le climat auparavant. Depuis 2015, la planète se serait réchauffée d'environ 0,06 degrés centigrades en conséquence de la raréfaction des aérosols, selon un récent calcul du climatologue Zeke Hausfader de l'organisme Berkeley Earth. Changement de régime. Les émissions mondiales d'aérosols ont diminué rapidement dans les dernières années, notamment à la faveur de la Chine, qui s'est attelée à l'amélioration de la qualité de son air. Et, depuis 2020, une nouvelle règle de l'Organisation maritime internationale, OMI, une institution de l'ONU, réduit de beaucoup les émissions polluantes des navires en haute mer, ce qui a aussi une incidence majeure. Les navires en haute mer utilisaient un fioul qui est très, très sale. Il contenait beaucoup de soufre. Pendant longtemps, les gens se disaient que ce n'était pas trop grave pour la santé humaine, car cette pollution était relâchée au-dessus de l'océan, explique Matthew Henry, chercheur à l'Université d'Exeter au Royaume-Uni et auteur d'une étude sur l'effet climatique de la nouvelle règle de l'OMI. Or, au tournant du millénaire, il était devenu clair que les émissions de dioxyde de soufre, SO2, des cargos se propageaient vers les régions côtières, où elles causaient jusqu'à 150 000 décès prématurés par année. La règle de 2020 imposait donc une réduction de la teneur en soufre du carburant marin à 0,5% par rapport à la limite de 3,5% alors en vigueur. Pour l'industrie maritime, cela signifiait d'acheter du carburant mieux raffiné et donc plus coûteux. Les armateurs pouvaient aussi installer des épurateurs au bout des tuyaux d'échappement. Quelques années après son entrée en vigueur, la règle semble porter fruit, du moins si l'on en croit les nuages. En 2022, une étude de la NASA, basée sur 17 années d'imagerie satellitaire, a montré que les longues traînées nuageuses derrière les navires étaient en train de s'éclipser. Leur densité avait diminué de moitié dans 5 corridors maritimes majeurs. Retour à la question. Venons-en finalement à la question du début. Est-ce que les rayons du soleil tapent plus fort depuis que les navires émettent moins de soufre en haute mer? Autrement dit, pouvons-nous percevoir sur notre peau la disparition de cet écran solaire imputable aux aérosols? Non, répond Matthew Henry. Il faut comprendre que l'effet climatique des émissions de soufre des navires se cantonne aux nuages. Bien que ces émissions soient sous forme gazeuse, SO2, le dioxyde de soufre subit des réactions chimiques dans l'atmosphère et se transforme en acide sulfurique, H2SO4. Ces molécules s'agrègent et deviennent des aérosols de sulfate. Les nuages créés flottent au-dessus des mers. Ce phénomène modifie la quantité de rayonnement solaire qui est absorbé par l'océan et, de ce fait, le réchauffement de la planète. Mais sur les continents, je ne pense pas que son effet soit important, explique M. Henry, un diplômé de l'Université McGill. À sa connaissance, aucun article scientifique ne témoigne d'un déplacement des nuages générés par les navires au-dessus des continents. En conséquence, leur raréfaction ne devrait pas avoir d'incidence sur notre perception du soleil, du moins sur la terre ferme. Et qu'en est-il de la navigatrice qui traverse l'océan? Sur le pont de son navire, elle devrait bénéficier d'un peu plus de beau temps qu'en 2019. Pour elle, le soleil ne brillera pas plus fort, mais sera visible plus souvent. C'était « Le soleil tape-t-il plus fort depuis que les navires émettent moins de soufre ?» un texte d'Alexis Riopel paru le 15 janvier 2025 dans Le Devoir.
Décès de Serge Fizette, collaborateur à Fugue. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Serge Fizette, qui signait la chronique « Hommage à nos héros » depuis 2021, est décédé le 30 décembre 2024 à l'âge de 80 ans. Celui qui fut d'abord et avant tout un potier et un céramiste est rapidement devenu l'un des grands défenseurs de la sculpture québécoise et de la mémoire de l'homosexualité masculine. Serge Fizette est mort des suites d'une longue maladie. Ami et lecteur de Fugue depuis de très nombreuses années, M. Fizette a publié « L'homosexualité masculine au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours » chez Québec Amérique. C'est d'ailleurs depuis l'année de la publication de cet ouvrage, en 2021, qu'il a débuté sa collaboration avec Fugue, rédigeant à chaque édition des portraits de personnalités gays québécoises, de Jean Basile à Robert Pelchat, en passant par Normand Moffat, Armand Monroe, John Banks, Denis Langlois, Robert Laliberté, Bernard Rousseau, Alain Bouchard, Thomas Vogue et plusieurs dizaines d'autres. Membre et donateur des Archives gays du Québec, AGQ, il a siégé sur le jury du prix Franck Rémégui dans le cadre du 40e anniversaire de cet organisme. Il a également signé quelques recueils de poésie aux heures bleues. Serge Fizette était une personne très généreuse malgré sa timidité. C'était un fou d'écriture et d'édition, se rappelle le rédacteur en chef de Fugue, Yves Lafontaine. Depuis mon arrivée à Fugue en 1994, il nous écrivait souvent à la rédaction pour faire des suggestions et des commentaires posés et toujours constructifs. J'étais conscient que sa santé n'était pas des meilleures. Et lors de notre dernière discussion, en octobre dernier, il m'avait annoncé qu'il était forcé de cesser sa collaboration à Fugue à cause de la dégénérescence progressive de ses visions. Il a tout de même pris le temps de nous faire parvenir plusieurs textes, dont les derniers paraîtront au cours des prochains mois. Serge Fizette, né en 1944, était détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'art. Directeur de la revue Espace Sculpture de 1987 à 2013, il a également été commissaire d'exposition, en plus d'être l'auteur de plusieurs ouvrages sur la sculpture. Il a participé à des expositions à la Maison de la culture Rosemont-la-Petite-Patrie, à la galerie Joyce Yaouda ou encore à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal, entre autres. Potier, puis céramiste, Serge Fizette ne se contentera pas de créer des œuvres. Il désirait aussi promouvoir l'art de la sculpture au Québec. M. Fizette était un personnage qui passait facilement de la pratique à la théorie et souvent, dans cet ordre pas habituel des choses, rappelle le critique d'art Gilles Daigneault en entrevue au Devoir avec la journaliste Catherine Lalonde. Ainsi, toujours selon M. Daigneault, Serge Fizette écrira sur la sculpture avant même de devenir historien de l'art. La sculpture et le vent. Femme sculpteur au Québec. Symposium de sculpture au Québec, 1964-1997. Potier québécois, espace utopique. Projection et prospection, avec François Chalifour, entre autres, sont autant d'ouvrages signés par Serge Fizette, qui a également co-signé l'ouvrage numérique « Dictionnaire historique de la sculpture québécoise du XXe siècle ». Pour bien des artistes de la sculpture, il reste le souvenir de l'événement Artefact, pour lequel Serge Fizette a été le commissaire dans le cadre des éditions 2001, 2004 et 2007, alors que cette activité s'était tenue sur les bords du canal Lachine, sur le Mont-Royal ou encore au parc Jean-Drapeau, Expo 67. Ça a été le premier lieu à offrir une possibilité d'expérimentation de l'art public éphémère, contrairement à l'art public pérenne, d'expliquer au Devoir la consultante en art public Francine Laure, qui a travaillé jadis sur des projets avec la SDC du village. J'ai connu Serge Fizette alors qu'il était directeur de la revue Espace Sculpture. J'étais à l'époque au Centre international d'art contemporain de Montréal et au 100 jours d'art contemporain de Montréal, comme directeur des communications, se rappelle Pierre Pilote, l'actuel coordonnateur des Archives Guy du Québec. C'était surtout pour des artistes et de la publicité dans sa revue. C'était à partir des années 1985 et durant plusieurs années. Puis on s'est perdu de vue pendant un certain temps, et il m'a contacté pour relire son livre « L'homosexualité masculine au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours », avant sa parution. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Ensuite, il nous avait approchés, mon conjoint Claude Gosselin et moi, pour sa chronique dans le Fugue. Après la parution de son livre, on lui a demandé de faire partie du jury de la bourse Franck Rémy-Guy en 2023. C'était un donateur depuis plusieurs années. Nous perdons ici un grand spécialiste de la sculpture contemporaine également. L'équipe de Fugue désire offrir toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Serge Fizette. C'était « Décès de Serge Fizette, collaborateur à Fugue », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Haïti Histoire. La semaine est décavée. À propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion », un texte de Leslie Péan, paru le 8 janvier 2025 dans Alter Press. La propriété terrienne est la pomme de discorde. Dessalines est assassiné le 17 octobre 1806 dans un complot ourdi par des généraux noirs et mulâtres associés liés à des commerçants américains. En effet, la fausse information de la mort de l'empereur était diffusée par le journal Le Petit Censeur, journal de la communauté française de Philadelphie, dès le 7 octobre 1805. Elle est reprise et véhiculée par Independent Chronicle de Boston, Massachusetts, le 14 octobre 1805, le Commercial Gazette de New York et le National Intelligence de Washington, le 21 octobre 1805. Une semaine plus tard, soit le 21 octobre 1805, Independent Chronicle rétropédale en affirmant que cette annonce était prématurée. De toute façon, selon ce journal, ce n'était que partie remise, car une grande jalousie subsiste entre noirs et mulâtres du Nouvel Empire et qu'une insurrection se produira bientôt. Selon une opinion fiable, Christophe deviendrait bientôt empereur, car la popularité de Dessalines diminue chaque jour et celle de Christophe augmente. Il est évident que d'importants changements auront lieu bientôt, mais on ne saurait prédire comment et sous quelle forme la tranquillité permanente sera établie. L'ère des fake news n'a pas commencé avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016. Cette technique idéologique bien ancrée pour l'orientation et la manipulation de l'opinion a beaucoup d'antécédents. Le discours faux, des inexactitudes, ne commence pas toujours nécessairement avec des titres racoleurs à la une. Avec des insinuations bien placées, le commanditaire influence l'opinion pour arriver aux conclusions souhaitées. C'est le cas avec l'article annonçant la mort de Dessalines le 7 octobre 1805 et son remplacement par Christophe. Ce fake news agit comme une grenade à retardement qui finit par exploser un an plus tard, le 17 octobre 1806. La modification de la perception de Dessalines a réussi. Conscient du désir de révélation du secret et de la quête de vérité, les seconds couteaux de la presse américaine manipulent le besoin de communication. L'élimination de Dessalines ne s'est pas révélée une panacée pour le calme. Une guerre civile s'ensuit et le pays est divisé en deux États distincts. La faction mulâtriste, dirigée par Pétion, contrôle l'Ouest et le Sud, tandis que la faction noiriste, avec Christophe, contrôle le Nord. À la faveur de l'unification du pays sous Boyer, cette situation va se maintenir jusqu'à la révolution avortée de 1843. Le courant noiriste veillait à la coupe pour empêcher qu'elle ne déborde. En réalité, c'est avec la même superbe que les membres de l'armée indigène se succéderont au pouvoir jusqu'au renversement de l'empereur Faustin Soulouk en 1859. Ce dernier monarque est l'ultime représentant des 37 militaires qui ont signé l'acte de l'indépendance. L'influence de ces 37 personnes ne s'arrête pas non plus à leur mort. En réalité, on devrait parler des 264 militaires et administrateurs qui ont signé la circulaire du 22 septembre 1804 demandant que Dessalines soit proclamé empereur et intronisé le 8 octobre de la même année. Ses fondateurs, est-ce qualité, ont-ils initié la politique de doublure en plaçant Dessalines sur un piédestal avec un titre honorifique et des honneurs pendant qu'il se réservait les privilèges? Dans tous les cas, l'armée est omniprésente dans la vie de la nation et consomme un tiers du budget national de 1804 à 1915. La moitié du reste va au paiement de la dette de l'indépendance et aux réclamations étrangères. Les généraux gouverneront pendant un siècle. Et en 2020, le moindre quidam qui évoque leur nom le fait pour résister à tout changement, pour légitimer des bêtises et pour donner un sens à sa mauvaise conscience. Haïti est le berceau de la régénération de la race noire, tout comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. Que les 37 hauts gradés qui ont signé l'acte de l'indépendance d'Haïti en soient conscients ou pas, les peuples noirs sont engagés dans une problématique beaucoup plus large que celle de l'avenir d'Haïti, à savoir la réfutation de la thèse de l'infériorité des Noirs par rapport aux Blancs. Un complot qui remonte à plus de 4000 ans, à l'époque où les connaissances des Égyptiens à la peau noire ont été emportées en Grèce. La responsabilité est lourde à porter. Et c'est là la vraie question dans la lutte contre le racisme blanc qui a tout fait pour vilipender les peuples noirs en maintenant à leur direction des incapables de tout acabit. Des incapables qui n'ont aucune idée ni la moindre conscience de l'ampleur de leurs responsabilités historiques. Pourtant, Valentin de Vasté, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Hannibal Price, Jean Price-Mars avaient compris le problème. et ils ont fait de leur mieux pour débarrasser Haïti de l'esclavage mental qui se transmet de génération en génération avec pour corollaire l'obscurantisme et la dépréciation de soi. La réhabilitation de l'Égypte noire entreprise par Anténor Firmin dans son opus « De l'égalité des races humaines », un an après le partage de l'Afrique entre les Européens en 1884, en dit long. Le voile de silence des racistes ne s'étendait pas uniquement sur la révolution haïtienne de 1804, mais sur les conquêtes et les réalisations des peuples noirs depuis l'Antiquité. Vous écoutez Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion 2 de 7 », un texte de Leslie Péan, paru le 8 janvier 2025 dans Alter Press. La falsification historique a une longue histoire dont les traces se retrouvent autant chez les vainqueurs que chez les vaincus. Au temps des clochettes et des tambours, le mensonge culturel fait floresse. Les idéologues noiristes ne se préoccupent même pas de remonter au moment où les divinités de la vallée du Nil se présentaient drapées de la couleur noire, alors synonyme de couleur des dieux et de beauté. À ce sujet, l'égyptologue grec Sotirios Meyassis écrivait « Le noir est bien souvent la couleur des dieux. Osiris était noir. Isis fut regardée comme une déesse noire et rouge, une nubienne, et figurait voilée de noir. Selon Porphyre Knef, le dieu créateur des Égyptiens était noir. Un dieu noir figure sur le tombeau de Séti Ier. Rappelons Déméter noir. Le noir fut pour les prêtres égyptiens une des couleurs sacrées. Ce sont des noirs égyptiens qui n'étaient ni noiristes, ni noirocentristes, ni prisonniers d'une logique de la couleur de la peau qui ont enseigné aux Grecs de race blanche, à partir de Pythagore, les éléments fondamentaux de la physique, de la cosmologie, de l'astronomie, de la musique, de la philosophie, des arts, de la littérature et des mathématiques. Des disciplines qu'ils avaient maîtrisés, dont on peut encore admirer les applications dans la structure des pyramides et dont les égyptologues eurocentristes se sont emparés finalement en décidant de blanchir les Égyptiens. Tentative désespérée que dénonçait déjà en 1885 l'égyptologue haïtien Anténor Firmin. D'autres travaux scientifiques, dont ceux du savant sénégalais Tchékanta Diop, confirmeront la noirceur de la peau des Égyptiens. Dans le dessein de contrecarrer les tentatives d'émancipation des peuples noirs du continent américain, les nations blanches à vocation hégémonique ont tenté, au moins en deux occasions, de récupérer à leur profit une révolution triomphante. La première fois en 1803 en Haïti, la deuxième fois à Cuba, entre 1901 et 1903. Quand, après la capitulation française de novembre 1803, les vestiges de l'armée française s'apprêtent à quitter le port du Cap, assiégé par la flotte britannique, le commandement britannique offre ses bons offices à Dessalines pour organiser et superviser leur départ. Flairant le piège, Dessalines décline poliment l'offre reçue et laisse aux vaincus le soin de se faufiler par leurs propres moyens entre les mailles du filet britannique. Le même scénario se répétera à Cuba, un siècle plus tard, lorsque l'armée espagnole vaincue par les troupes cubaines se trouva dans l'obligation de se retirer définitivement de l'île. Après de multiples négociations, c'est avec le commandement de la flotte américaine que sera conclu le traité de capitulation qui ouvrira la voie à l'amendement Platte et à la cession de Guantanamo, talon d'Achille de la révolution cubaine. Le retour sur le passé que propose Eddie Cavé tente de donner une signification au présent, en provoquant une réflexion sur le parcours des 37 pères fondateurs. Ils abordaient l'inconnu de l'avenir avec une dimension spirituelle, incapable de cimenter les groupes sociaux et sans une claire compréhension du fonctionnement du reste du monde. Le savoir à la tête du nouvel État est très limité, mais avec des dirigeants qui savent à peine lire et écrire, mais qui refusent de reconnaître leur incompétence. Comme l'a écrit l'économiste et industriel Edmond Paul, c'était vraiment des pères de la patrie, car eux avaient fondé l'État. Et le peuple enfant devait obéir. Le baron de Vasté, un des éminents acteurs de la période, devait faire en 1819 le diagnostic suivant. Nous sommes bien excusables, sans doute, d'avoir erré dès nos premiers pas dans l'art difficile du gouvernement. Les intérêts matériels n'étaient pas les seuls à dicter les comportements. Les luttes pour le pouvoir et celles contre le préjugé de couleur étaient tout aussi importantes. Les mots « noir » et « mulâtre » étaient devenus des hashtags, des mots dièses. Ces sensibilités apparaîtront à visière levée après l'indépendance sous des déterminations multiples. Le cas d'école est la révolte de 1843, commencée au Caille par les Salomon en 1843, alors que cette famille avait été du nombre des grands bénéficiaires des gouvernements de Pétion et de Boyer. Au même titre que d'autres familles noires telles que les Cazot, les Rameau, les Domingue, les Claude, elle avait reçu en don sous le gouvernement de Boyer des propriétés terriennes et des postes importants dans l'administration des douanes et des finances. Commencée au Caille, elle sera vite détruite autant par le mulâtrisme des Hérard que par le noirisme des Salomon. En même temps, on a souvent parlé du leader militaire Acao, en gardant sous silence l'essence de la révolte de 1843, qui était de changer le cours de l'histoire, de modifier le pli qu'avait le caractère national façonné au militarisme, à l'idolâtrie de la force par le régime colonial. À suivre. C'était Haïti, Histoire, la semaine, Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion 2 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 8 janvier 2025 dans Alter Presse.